Dialogue entre Congolais à présent avec Jean-Claude Toumba Kamanga, la présentation.
Bonsoir, Libération. Libération hier mardi à Kinshasa, deux trois militants des droits humains arrêtés pour avoir projeté une marche en rapport avec la situation observée à l'Assemblée nationale. Une libération intervenue après 48 heures de détention. Il s'agit du directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans Voix, qui est également secrétaire exécutif du RENA DOSC, Floribert Chebeya, son adjoint à la VSD, Dolly Befo, et le chargé de réception du même réseau, Réseau National des ONG des Droits de l'Homme RDC, Donna Chikaya, qui faut noter qu'en rapport avec la même situation à l'Assemblée nationale, des étudiants et journalistes qui ont voulu manifester ont aussi été arrêtés. Comment expliquer cette situation et quelle est la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo? C'est le thème de ce débat. Nous en parlons avec nos invités, le ministre congolais des droits humains, Oupio Kakura Wapol, en ligne depuis Genève en Suisse, Fernandez Mourola, chargé des programmes au réseau national des ONG de défense des droits de l'homme de la RDC RENADOC, et Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, organisation de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, basée à Paris. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Libération hier mardi à Kinshasa de trois militants de droits humains arrêtés pour avoir projeté une marche en rapport avec la situation observée à l'Assemblée nationale. Une libération intervenue après 48 heures de détention. Avant de passer au débat, je propose d'abord de suivre le témoignage de l'un des trois défenseurs des droits humains libérés, Floribert Chebeya, directeur exécutif de la Voix de Sans Voix et secrétaire exécutif du RENADOC, qui parle des conditions de leur détention au téléphone de Guy Maté.
En vrai, il n'y a aucun motif qui nous a été signifié, mais dans les conversations, les reproches, que ce soit au service de sécurité civile, de l'Agence nationale de renseignement, ou à la direction de renseignement des services spéciaux de la police, l'action de la synergie des ONG et des droits de l'homme qu'on a suivi dans la République démocratique qu'on va être perçu comme une action politique destinée à soutenir le président de l'Assemblée nationale. C'est à quoi nous avons rétorqué par la négative. Disons, nous avons été pratiquement enlevés par des agents venus de l'Agence nationale des renseignements. Nous avions été pris dans des conditions de brutalité inouïe où on a estimé que nous étions surpris en pleine labour. Nous avons été projetés dans les escaliers. Nous avons été menottés avec les femmes blessées au bras. Il y a un collègue, Michel de Renadon, lui, il a reçu un coup violent de crosse à la tête, il a saigné. Et moi et mon collègue Dolly, nous avons été menottés et placés dans un minibus qu'on a conduit à tombeau ouvert jusqu'au moment où nous sommes arrivés à l'ANR en face de la primature, humiliés, déchaussés, assis à même les sols, dépouillés de tous les effets personnels.
C'était là le témoignage de Floribert Chebeya, d'Ismas Kitenge. Bonsoir.
Bonsoir.
Ouais. Comment vous pouvez réagir à ce témoignage?
Merci beaucoup. D'emblée, j'ai dit que c'est une violation grave des droits de l'homme qui porte atteinte notamment à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et à la liberté d'association. Donc, tout citoyen congolais, en vertu de droits qui sont reconnus dans la Constitution, doit s'exprimer librement, doit également exprimer ses opinions. Et les associations ont le droit également de pouvoir non seulement s'exprimer, mais aussi organiser les manifestations. Et pour l'état d'espèce, donc il y a ça. Plus que ça, il y a aussi des violations du droit à l'intégrité physique. Les gens qui sont arrêtés, qui sont maltraités, donc là il y a eu également de mauvais traitements, des traitements humiliants et dégradants, et non seulement ça, suivi également des actes de torture. On a vu aussi également que la brutalité, les menottes, les coups de botte, ça c'est des actes de torture. Donc tout ça, ce sont des violations graves de droits de l'homme qui violent les articles qui sont consacrés dans la Constitution de la République démocratique du Congo, mais aussi le pacte international et particulièrement le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la République démocratique du Congo avait ratifié et qu'il a intégré dans ses dispositions internes notamment dans la Constitution du 18 février 2006. Qui régit actuellement notre République.
Merci. Fernand Delvaux, voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous pouvez dire après ces observations de l'histoire qui t'en dit ?
Oui, je ne peux qu'adhérer aux observations de mon collègue Dismas Kitenge, parce qu'en fait, nous sommes en train de nous battre jour et nuit pour défendre les droits des autres, pour défendre les droits collectifs, pour faire en sorte que ce pays change. Donc, vous connaissez, les droits de l'homme, c'est, les droits de l'homme sont sacrés. Et personne n'a le droit de violer la Constitution. Nous avons comme impression que notre gouvernement oublie souvent qu'il a ratifié autant d'instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui constituent pour nous ce qu'on appelle des lois supranationales. Ces instruments ont force des lois. La République démocratique du Congo a le devoir et l'obligation, en tout temps et en toutes circonstances, de répondre de ses obligations internationales découlant de ces instruments juridiques.
Alors, on va laisser le ministre des Droits humains répondre. Monsieur le ministre, Oupio Kakoura, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Claude Kamanga.
Oui, monsieur le ministre, comment vous pouvez répondre maintenant à ce qu'on peut appeler peut-être accusation, je crois, hein, contre le gouvernement, si je peux dire, ou des autorités congolaises?
Oui, j'apprécie votre analyse de fait. Effectivement, je suis en dehors du pays, donc je suis là en train de suivre la version d'une des parties. N'ayant pas la relation exacte des faits, je pourrais à ce stade donc, me limiter d'abord à exprimer ma sympathie pour les activistes de l'homme si ce qui est raconté est vrai. Et noter surtout que, nonobstant ce qui se dit, il y a des progrès sensibles, comme je le dis, des progrès sensibles qui se réalisent en matière de droits de l'homme dans notre pays. Et donc, au moment où je suis à Genève, je soutiens justement le Conseil des droits de l'homme qui se penche sur la situation dans notre pays. Et il est tout à fait déplorable d'attendre qu'il y a des activistes des droits de l'homme qui auraient été, n'est-ce pas, victimes de violations des droits de l'homme. Et je crois qu'effectivement, à mon retour au pays, je vais vérifier. Ce que je sais, c'est que lorsque j'ai été mis au courant de la situation que traverse nos compatriotes, j'ai pu intervenir à partir de Genève pour que, effectivement, les trois amis soient libérés. C'est dangereux d'attendre qu'ils ont été mis en liberté hier dans le délai de 48 heures.
Voilà, c'est vrai, vous dites que vous n'avez pas encore le point de vue de l'autre camp, je veux dire les forces de l'ordre qui ont arrêté ces militants de droits de l'homme. Là, j'ai le point de vue du directeur du bureau de la division des droits de l'homme de la MONUC. Lui, à propos de cette arrestation, il a qualifié de signe de violation de droits de l'homme. Ces personnes, je cite, ont été arrêtées au siège de leur association en plein exercice de leurs activités. Ils n'avaient pas droit aux visites, donc ces militants de droits humains, même la division de droits de l'homme de la MONUC, n'avait pas ce droit. Monsieur le ministre, est-ce compréhensible dans un État comme le nôtre, qui s'appelle la République démocratique du Congo, que les détenus n'aient pas droit aux visites?
Je crois qu'il est clair que, suivant les engagements que nous avons pris, que les détenus ont droit, n'est-ce pas, aux visites, non seulement des activistes des droits de l'homme, mais également des membres de famille. Et que donc, si jamais il y a des restrictions, c'est nous, nous sommes au courant parce que nous sommes là pour garantir justement au niveau du gouvernement le respect de nos engagements relatifs aux droits de l'homme. Nous n'hésiterions pas de pouvoir intervenir pour que ce soit fait. Donc, je crois que les conditions, je m'en tiens à ce que j'ai appris, c'était le dimanche que les trois activistes ont été interpellés. Vous savez certainement que le temps que le service, je parle sous les réserves, n'est-ce pas, de ce que j'ai appris, puisse vérifier les faits, encore qu'il pourrait y avoir peut-être d'autres raisons que j'ignore. Et je dois apprécier à ce stade qu'effectivement, leur relaxation soit intervenue n'est-ce pas, dans le domaine légal qui est raisonnable.
Oui,
et je dis qu'on ne peut pas encourager, non.
Si
effectivement, il s'avère qu'il se livrait à des activités conformes à la loi, hein, n'est-ce pas, nous, on ne peut pas encourager des violations des droits, et surtout, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de ceux-là, hein, qui s'adonnent également comme nous à la défense et à la protection des droits de l'homme dans notre pays.
Oui. Fernandez, Morola, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau après avoir entendu le ministre des Droits humains, Upio Kakoura?
Oui, en fait, ça c'est un discours de routine. En fait, en réalité, les autorités de ce pays doivent savoir que les défenseurs des droits de l'homme constituent ce qu'on appelle la pierre angulaire de la démocratie, de la justice et de l'état de droit. Ne pas les comprendre, c'est une fatalité.
En quoi vous êtes la pierre angulaire?
Nous sommes la pierre angulaire parce que si aujourd'hui on parle de ces instruments, c'est nous qui surveillons au quotidien, dans les coins et recoins de ces pays, la mise en œuvre de toutes les dispositions constitutionnelles, la mise en œuvre de tous les instruments juridiques pour lesquels notre pays a souscrit. Cela fait de nous des citoyens hors du commun. En d'autres termes, des citoyens qui ont donné leur vie pour défendre les droits des autres, pour défendre les sans-voix. Et dans le cas d'espèce, notre gouvernement doit intérioriser tous les instruments qu'il a ratifié.
Oui, mais est-ce que vous savez pourquoi vos collègues ont été arrêtés, Florida HBA, IBFO et M. Donald Chicago? Vous savez pourquoi?
Mais en fait, nous, ils ont été arrêtés à ma présence. À ma présence, à notre bureau du réseau national des ONG des droits de l'homme.
Qu'est-ce qu'il leur est reproché exactement?
On était en train d'organiser une conférence de presse, qui est une activité de routine pour les ONG des droits de l'homme, pour dénoncer un certain nombre de violations intentionnelles de la Constitution de la part des institutions de la République. Au niveau du gouvernement, on est en train d'observer, sans pour autant les vouloir, ça, et de manière inadmissible, des violations répétitives de plusieurs dispositions constitutionnelles.
Est-ce que votre manifestation s'est organisée légalement?
Oui, nous avons informé par écrit, avec accusé de réception, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, l'inspecteur provincial de la police au niveau de Kinshasa, ainsi que les amis de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc nous avons fait, nous avons informé que nous allons faire une marche. Mais par rapport à la conférence de presse que nous avons organisée, c'est une activité de routine qui entre dans le cadre de nos objectifs opérationnels.
Et est-ce que c'est autorisé?
Oui, c'est autorisé, parce que ce n'est pas la première conférence que nous faisons. Ça doit être peut-être la 50e ou la 60e conférence de presse.
Voilà, l'histoire qui t'inquiète.
Oui, je vous suis très bien.
Vous avez trouvé le ministre?
Oui. Oui, à ce stade, je peux dire que le ministre garde de pouvoir condamner ces actes qui violent manifestement la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, par le fait qu'il est en dehors du pays. Mais les faits sont avérés. Les faits sont avérés en ce sens que ce sont les services de l'État, l'ANR, à l'occurrence, qui a fait intrusion dans le siège d'une association, qui est ici une maison privée, c'est pas une maison de l'État, et qui est allée empêcher les activistes de défenseurs de droits de l'homme, moi je préfère cette expression, qui est utilisée et qui est autorisée par la déclaration sur les défenseurs de Nations Unies, ils sont allés empêcher les défenseurs d'émettre leur opinion, ou de les intimider, ou de les empêcher d'exercer leurs droits de citoyens. Ça, ce sont des faits avérés, et plus que ça, le ministre ne pourrait plus se garder, disons, derrière le devoir de réserve pour ne pas pouvoir condamner, puisqu'en fait, il était établi qu'ils ont été arrêtés par les agents de la mer, amenés à la police de Kinmazière, où ils ont subi d'actes de torture. Et quand bien même le ministre dit que c'est dans le délai légal de garde à vue qu'ils ont été libérés, mais en fait le motif de l'arrestation est arbitraire. Le motif de l'arrestation ne constitue pas une infraction, et en tant que ministre de droits de l'homme, c'est-à-dire protecteur également de droits de l'homme, il devrait demander aux services concernés de pouvoir ouvrir une enquête et, le cas échéant, de sanctionner les personnes qui ont été à la base de ces actes qui constituent des violations graves de dispositions de la Constitution et même des infractions aux lois congolaises. Et ça, ce serait un exemple patent de la lutte contre l'impunité qui constitue un axe prioritaire du gouvernement de la République et particulièrement aussi du programme du président de la République et de ses engagements vis-à-vis de la nation. Oui. Donc ces faits-là sont avérés et appellent une réponse immédiate et claire du gouvernement en termes de lutte contre l'impunité. Les agents qui ont commis ces actes devront être traduits devant la justice et être sanctionnés pour les actes qu'ils ont posés. Donc là, c'est tout à fait normal. Et si le ministre se serait exprimé de cette manière, ça m'aurait apaisé pour dire qu'il ouvre la bonne enquête, il sanctionne.
Voilà.
Bon, mais voilà, ça c'est un exemple clair de l'arbitraire, de violation des libertés fondamentales, mais aussi un acte clair de l'impunité qui sévit dans notre pays et qui est toléré en partie, en grande partie, par le gouvernement congolais.
Oui. Monsieur le ministre Oupio Kakoura, je signale que vous intervenez au téléphone depuis Genève en Suisse. En plus de 3 militants des droits humains, il y a un journaliste et puis des étudiants qui ont été arrêtés. L'un d'entre ces étudiants, Zélès Idambo de l'UNIKIB, vient d'être libéré. La faute des étudiants, selon le RENADOC, c'est d'avoir initié et adressé une lettre ouverte au président de la République depuis le vendredi 13 mars 2009 sur l'état de la nation et la crise interinstitutionnelle, ce qui oppose actuellement le pouvoir législatif au pouvoir exécutif, donc au gouvernement. Monsieur le ministre, est-ce que, puisque vous dites que pour le moment vous n'êtes pas encore bien informé, surtout vous n'avez pas encore vérifié ces faits, mais quand vous allez les vérifier, vous allez faire quoi?
Monsieur le ministre, je crois que, comme le dit mon ami Kitenge depuis Kisangani, les allégations de violation des droits de l'homme,
oui,
telles que celles qui sont, n'est-ce pas, adressées à nos amis,
oui,
font l'objet de vérifications systématiques. J'ai signalé que aussitôt que j'ai eu connaissance,
oui,
n'est-ce pas, de l'arrestation, de la détention de Floribert Chebeya et de ses amis, j'ai pris le soin moi-même, n'est-ce pas, d'appeler l'équipe des droits pour intervenir, obtenir, n'est-ce pas, leur libération. Je suis heureux que cela soit fait.
Mmh.
Effectivement, s'agissant des cas des étudiants, même si je suis en dehors du pays, mes services sont à pied d'œuvre, et je savais qu'il y a des étudiants qui étaient déjà libérés bien avant, n'est-ce pas, la libération de défenseurs de l'homme.
Mmh.
Donc, ce sont des questions qui me préoccupent tous les jours.
Mmh.
Je suis heureux d'apprendre de la part de nos amis qu'ils sont la pierre angulaire, n'est-ce pas, de la défense de l'homme. Oui, je dis que nous sommes tous sur la scène nationale de promotion de défense de l'homme, mais c'est le gouvernement qui est en premier lieu le garant, n'est-ce pas, de la protection des droits de l'homme.
Mmh.
Et le gouvernement ne peut pas le faire seul, il a besoin d'autres acteurs, dont la société civile.
Oui.
Et donc, s'il y a des informations,
oui,
concernant des violations avérées,
oui,
nous sommes toujours disposé à les recevoir,
oui,
et à faire en sorte que la situation puisse changer.
Oui, mais monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Une fois avéré, hein, si vous vérifiez, vous constatez que les agents de l'ordre effectivement étaient coupables, notamment l'arrestation arbitraire, mauvaises conditions de détention, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous savez aussi bien que moi que le gouvernement a décrété une politique d'impunité zéro. Hein, et que c'est clair, donc, tout agent, quel que soit son niveau, qui serait reconnu coupable de violations, toute violation, pas seulement de violations graves, violation de l'homme, devra faire l'objet de mesures conséquentes, soit au plan disciplinaire ou au plan pénal. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Laissez-nous le temps de vérifier les allégations et de suggérer aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent.
Est-ce qu'on peut dire que déjà vous êtes en pleine enquête, monsieur le ministre?
Je dis que aussitôt que j'ai eu l'information, tout ce que je me trouve, n'est-ce pas, j'ai pris les questions pour les premières mesures d'urgence concernant les personnes que je connais bien, et je suis heureux de savoir que les autorités compétentes ont agi pour que qu'ils soient mis en liberté. Laissez-nous le temps de suivre le reste. Je ne peux pas vous dire quel est le contenu, pour quelle raison, n'est-ce pas, les services compétents ont appréhendé telle ou telle autre personne.
Okay.
On pourrait peut-être être surpris qu'il y a autre chose dans le dossier. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Il est vrai que lorsque les procédures ont été menées en violation de certaines règles de forme, ils sont condamnés dans cette violation-là. Mais cela n'enlève à rien le fond du dossier que vous et moi, nous ignorons. Donc, je vais rentrer au pays et même à Paris, si je demanderai à mes services d'entrer en contact. C'est ça avec les services que vous signalez pour savoir quelles sont les raisons profondes, n'est-ce pas, qui ont motivé l'interpellation des défenseurs des droits de l'homme.
Évidemment, les auditeurs vous ont suivi, monsieur le ministre, donc une fois avéré, vous promettez des sanctions contre les éventuels coupables. Les auditeurs nous écrivent. Kakouli Sefou Gustave de Kalemio Katangas demande si on peut promouvoir la jeune démocratie en arrêtant des activistes de droits de l'homme de cette manière, ou la place de la liberté d'expression. Weledos, qui nous écrit depuis Guémena, province de l'Équateur, veut savoir si notre pays utilise quelle démocratie, car un pays démocratique ne peut jamais arrêter son peuple lorsqu'il exprime ses droits. Jélé de Mahagi, dans la province orientale, merci pour leur libération. Qu'ils ne se découragent pas, car, poursuit-il, ils sont d'un grand apport dans l'instauration de la démocratie. Fernandez, n'est-ce pas un message encourageant pour vous?
Oui, tout à fait. Nous sommes souvent contents lorsque nous recevons ce genre de messages. Quand on arrête des gens, on les met dans des lits carcéraux qui sont par ailleurs illégaux et anticonstitutionnels. Je ne sais pas ceux qui ont la charge.
Vous parlez de quel lieu?
Vous savez, quand on met des gens dans des cachots, des quimazières, dans des cachots des ANR.
C'est à Kinshasa, vous voulez dire?
À Kinshasa. Quand on vient arrêter les gens, sans mandat d'arrêt, sans mandat de comparution, nous sommes dans quelle république finalement? C'est tout ça la problématique. Mais nous, nous avons choisi ce métier et avec toute la détermination de travailler pour l'intérêt supérieur de nos masses laborieuses. Nous sommes déterminés, contre vents et marées, à affronter n'importe quel régime, qu'il soit totalitaire. Nous sommes habilités à l'affronter. Je pense que le gouvernement de la République démocratique du Congo, a tout intérêt à ne pas avoir sur son dos la communauté nationale des défenseurs des droits de l'homme. Parce que nous avons la capacité de faire tout. Même dans des
conditions. C'est pas une menace contre le gouvernement.
Non, parce que ça, le gouvernement commence à exagérer et nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. D'ailleurs, au niveau des ONG congolaises des droits de l'homme, nous avons décidé de faire des plaintes à charge de notre gouvernement pour que le gouvernement réponde de ces actes et de ces violations constitutionnelles. Et nous allons le faire auprès des mécanismes conventionnels, aussi bien au niveau des Nations Unies qu'aussi bien au niveau de l'Union africaine.
Faites-le d'abord, avant de se un copy pour passer le message.
Absolument, nous sommes en train de le faire.
Merci beaucoup, Dismas Kitenge. En une minute, avant de boucler cette première partie de notre émission.
Merci. Nul n'est au-dessus de la loi. Je rappelle ce principe de droit à M. le ministre. M. le ministre avait l'information. Il a suivi et il a atteint un service de l'État qui a détenu ses défenseurs de droits de l'homme. C'est que sur ce plan-là, si le ministre avait donné les ordres, avait suivi la situation pour qu'on libère, c'est que quelque part, ces services qui auraient obtempéré à l'ordre du ministre de droits humains ou autres se sont rendus compte que réellement il y a eu violation de la loi. Ça, au moins, c'est un fait avéré et comme nul n'est au-dessus de la loi, c'est que nous demandons qu'il y ait une enquête rapide de la part du ministre, éventuellement une action exemplaire pour consacrer la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo et pour les cas du gouvernement de la RDC, qui ne devrait pas être seulement un slogan, mais qui devrait être une réalité vécue par la population. Et les cas de l'arrestation de ces trois défenseurs et autres défenseurs, autres citoyens de la République pour s'exprimer sur un point devrait être un cas saisi et aujourd'hui matérialisé comme un exemple de la lutte contre l'impunité dont le gouvernement fait son cheval de bataille et son action prioritaire.
Merci beaucoup. Après cette libération hier mardi, à Kinshasa, de trois défenseurs des droits humains arrêtés pour avoir projeté une marche en rapport avec la situation observée à l'Assemblée nationale. quelle est la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Réponse dans la suite de ce débat, mais avant de poursuivre, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelle est la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Depuis un an, cette situation s'est détériorée, c'est le constat du rapporteur spécial des Nations Unies à RDC, Walter Kalin l'a dit dans son rapport présenté hier mardi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Mireille Boukassa nous donne l'essentiel de ce document.
Walter Kalin estime que la situation des droits humains reste très inquiétante dans l'est de la RDC, où des combats ont fait rage en fin d'année entre les éléments du CNDP, de Laurent Kunda et les forces gouvernementales. Il parle même des violations massives et systématiques envers les civils. Tout en accusant les groupes armés, mais aussi des éléments FRDC d'avoir commis plusieurs atrocités, Kalin estime que le gouvernement congolais ne remplissait pas son devoir minimum de protection de la population pendant ces violations. D'après le rapporteur spécial de l'ONU en RDC, dans de nombreux domaines, le gouvernement a renoncé à ses responsabilités de base en assurant qu'il n'y avait aucune force de police gouvernementale pour protéger plus d'1,3 million de personnes déplacées. Il conclut en disant que ces violations sont d'autant plus nombreuses parce que les coupables savent qu'ils bénéficient d'une impunité de fait en raison de la situation déplorable de la justice et d'un manque de volonté politique dans les pays.
Voilà, là c'est la situation par rapport particulièrement à l'est du pays. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en dites? Puisque vous êtes à Genève, justement.
Oui, je suis à Genève pour pouvoir donner la situation exacte et créer l'évolution positive, n'est-ce pas, de la situation au pays. Oui, le rapport de Monsieur Walter Kalin n'est pas nouveau. Il reprend exactement le constat qui a été fait par notre gouvernement. Mais il ne tient pas compte de l'évolution de ce côté. Ce rapport a été rédigé à la suite de la visite de M. Walter Kalin au début de l'année. Il tient compte donc effectivement des violations qui sont commises ou qui étaient commises dans les territoires qui étaient contrôlés par les groupes armés. Et nous avons tenu à dire au Conseil des droits de l'homme tout notre engagement à tant que gouvernement, et de continuer à promouvoir tous les droits de l'homme et tel que cela est reflété dans le programme du gouvernement. Et que, de ce point de vue-là, les situations qui sont tout à fait déplorables, mais qui se manifestent dans tous les pays du monde, étant donné qu'aucun État au monde n'assume de manière parfaite ses obligations avec les droits de l'homme, il faut continuer à soutenir la volonté politique exprimée par le gouvernement pour l'amélioration décisive et irréversible de tous les droits de l'homme dans notre pays. Donc, ce rapport, il faut le prendre comme étant une revue périodique de la situation qui se passe au pays, mais voir surtout quels sont les engagements que nous avons pris en tant que gouvernement, bien entendu, avec le concours appréciable de tenter les droits de l'homme, de la société civile, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer chaque jour à l'amélioration de la situation des hommes dans notre pays.
Monsieur le ministre, vous voulez dire que le rapporteur spécial de l'ONU en RDC exagère?
Il est très bien, si je dois dire devant vous l'ensemble du rapport, vous aurez pu vous rendre compte qu'il y a non seulement des exagérations, mais il y a également un certain nombre de données qui sont dépassées, qui ne tiennent pas compte, n'est-ce pas? Non seulement des efforts qui sont déjà fournis, mais du plan global de restructuration de l'armée, de la police, de la justice, de notre programme, de la feuille de route en matière de lutte contre l'impunité, contre la corruption. Donc, il y a autant de chantiers pour rebâtir, pour refonder le système de protection chez nous, et que de ce point de vue-là, je le dis encore une fois, il faut prendre positivement ces observations parce qu'elles concourent justement à l'amélioration de la situation par rapport au constat, au diagnostic que nous-mêmes nous avons déjà établi. Donc il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'étonnant. Le gouvernement a fait le même diagnostic et nous sommes là, dans un dialogue constructif avec tous les partenaires pour voir ensemble comment faire en sorte que nos objectifs, n'est-ce pas, soient atteints.
Des choses qui sont dites.
Oui, merci. Je viens de suivre Monsieur le ministre. Je le connais particulièrement bien comme l'ancien député. Je l'ai rencontré dernièrement à Genève. Monsieur le ministre a un sens d'ouverture, un sens de dialogue, mais qui est aussi limité par le moyen d'action. Je voudrais dire rapidement ce qui suit. Il n'y a pas que le rapport de ce rapporteur, il y a le récent rapport qui est sous les yeux du ministre, le rapporteur, les rapports des 7 rapporteurs thématiques sur la RDC, et à la page paragraphe 18, il dénonce non seulement les violations commises à l'Est dans les cas de conflit, mais aussi sur le reste du pays où il n'y a pas de conflit armé et où particulièrement toutes les forces de sécurité, notamment l'armée, la police, et les services de renseignement sous l'autorité du gouvernement commettent ces graves violations des droits de l'homme. Mais il y a aussi un point important auquel le ministre a fait allusion, sur lequel je vais revenir, c'est la distinction entre la promotion et la protection des droits de l'homme. Quand on parle de promotion, en fait, il s'agit en partie de ce que le ministre a dit, c'est-à-dire tous les efforts de législation que la République démocratique du Congo a accompli, ça il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de lois, mais ça ne suffit pas en matière de droits de l'homme. Ce qui compte, c'est la protection, c'est l'aspect de la réalisation concrète de ce droit, l'aspect de leur mise en œuvre. Et là, la République démocratique du Congo est encore loin de respecter sa propre législation, ainsi que la législation internationale en matière de droits de l'homme. Et ce qui est aussi important, c'est que l'impunité est générale sur l'ensemble du pays. Et ces rapports de 7 rapporteurs thématiques les soulignent avec force. Et je crois que M. le ministre doit le reconnaître, puisque le gouvernement a fait aussi le constat que l'impunité est générale. Et c'est pour cela que le gouvernement fait de la lutte contre l'impunité sa priorité. Mais aujourd'hui, il faut apprécier ces efforts de la lutte contre l'impunité qui sont aujourd'hui au point mort, c'est-à-dire au point de départ. Les constats étaient faits. Aujourd'hui, le gouvernement existe depuis 2 ans et demi. On ne voit pas de progrès spectaculaire dans le domaine de la lutte contre l'impunité.
Merci beaucoup.
Les droits sont vraiment faibles, mais aujourd'hui, on doit dire que les violations massives de droits de l'homme, leurs auteurs restent impunis.
Vous êtes chargé des programmes au RENADOC.
Oui, en fait, c'est comme vous le savez, la République démocratique du Congo.
Vous partagez l'avis de Bismarck?
Tout à fait, tout à fait. La République démocratique du Congo, à ce jour, n'a aucune politique nationale des droits de l'homme. Ça, c'est un. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est dans les capacités de nous démontrer à ce jour si les droits de l'homme sont promis au quotidien. Il n'y a à ce jour aucun indicateur objectivement vérifiable qui prouve que toutes les catégories, toutes les générations des droits de l'homme sont effectives dans notre pays. À part ça, je peux souligner, pour montrer que les droits de l'homme ne constituent pas une priorité dans ce pays, le ministère le plus pauvre du gouvernement, c'est le ministère des droits humains. Nous connaissons, nous travaillons avec ce ministère depuis plus de 10 ans, nous savons dans quelles conditions ils travaillent, et je me demande même s'ils ont les moyens de leur politique.
Donc c'est un peu un plaidoyer pour le ministre, au pire.
Oui, parce que les droits de l'homme sont transversales.
Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous dites par rapport à la lutte contre l'impunité? L'impunité a été déplorée par le rapporteur spécial des Nations Unies. Bismarck Kitenge vient de parler du rapport de cette rapporteure thématique. Mais il y a aussi Reporters sans frontières dans son rapport intitulé « Bukavu, la cité des crimes », rapport qui parle des assassinats des journalistes dans le sud Kivu. Il dénonce l'impunité dont jouissent les auteurs présumés ou désignés des assassins, assassinats notamment de Pascal Kabungulu, les journalistes Serge Maïché et Didas Namujimbo, sont en l'espace de 3 ans. Et il souligne par ailleurs que le fait de confier ces dossiers à des juridictions militaires consiste une confiscation de la vérité. Finalement, monsieur le ministre, que fait le gouvernement congolais de façon concrète pour lutter contre l'impunité?
Eh bien, je voudrais d'abord que, par correction et par principe, hein, nous puissions reconnaître que le gouvernement, par la bouche du chef de l'État, du Premier ministre, du ministre de la Justice, parce que c'est lui qui a la politique au quotidien en matière de justice, la question de la lutte contre l'impunité, mais aussi la question de la promotion de la protection des droits de l'homme, c'est l'objet de préoccupations constantes du gouvernement. Et donc, il faut reconnaître cela. Je suis d'accord que nos amis activistes de droits de l'homme, le reconnaissent par moments,
Mais à d'autres occasions, ils sont toujours tentés de ne voir que ce qui ne va pas. Non, je crois que lorsqu'on est en train de discuter de la femme de l'homme, il faut avoir aussi, n'est-ce pas, la justesse d'esprit, de reconnaître ce qui est fait.
Oui, mais
il y a des progrès. Les progrès sont en train de même.
Excusez-moi.
Nous avons beaucoup de situations.
Oui, excusez-moi.
Nous sommes déférés devant nos tribunaux, des condamnations qui sont prononcées. Et donc, c'est peut-être pas significatif, j'en conviens, par rapport à la somme de crimes, des violations qui se commettent. Mais la volonté y est. Et pas plus tard que la semaine passée, le gouvernement s'est réuni à Goma. Le chef de l'État, encore une fois, instruit les ministres sectoriels concernés pour que la tolérance zéro contre l'impunité soit une réalité. Et moi-même, avec le collège de la justice, nous avons réuni les autorités judiciaires du Nord-Kivu pour faire en sorte que, n'est-ce pas, cette politique criminelle, cette politique du gouvernement de lutte contre l'impunité, soit mise en œuvre.
Mais
c'est
pas
Goma.
Ouais.
Parce que c'est Goma qui peut être, n'est-ce pas, la région de notre Kivu où il y a une violation les plus massives qui ont été commises. Donc, je crois qu'il faut ne pas trop chercher par moment à faire du chantage sur le gouvernement. Les plaintes, oui, on y répond tous les jours. La capacité de pouvoir, n'est-ce pas, faire tout contre le gouvernement. Non. Il faut voir de cette manière positive. Je dis qu'aucun pays au monde n'est parfait. Aucun n'est parfait en ce qui concerne les obligations en matière de droits de l'homme. Mais le président, la RDC a un programme. Je suis étonné que mon ami Fernandez ignore que nous sommes parmi les rares pays qui avons un plan national de promotion des droits de l'homme.
Oui, mais c'est
vrai qu'on a un moyen.
Mais
la volonté du gouvernement est aujourd'hui, on est décidé à faire en sorte que nos engagements, tant internationaux que nationaux, soient, n'est-ce pas, respectés, bien entendu, en fonction des capacités humaines, matérielles, financières que nous avons.
Oui, monsieur le ministre Oupio Kakoura, je rappelle que vous êtes ministre des droits humains, mais lorsqu'il n'y a pas des signaux forts dans la lutte contre l'impunité, est-ce que finalement la tolérance zéro ne devient pas un simple slogan? En une minute, monsieur le ministre.
Non, je vous mets un jour sur le tour d'abord pour faire l'inventaire des procès, des condamnations, n'est-ce pas, qui ont été prononcées vis-à-vis des auteurs connus, notamment en matière de violence faites aux femmes. Il y en a, pas plus tard que la semaine dernière, à Kinshasa, à Bounia, à Kinshasa, on a condamné. Nous avons des procédures qui sont en cours, il y en a. Donc, je pense qu'effectivement, il faut par moment s'arrêter, reconnaître les petits efforts qui sont fournis, et ensuite, n'est-ce pas, continuer à agir, parce que nous devons tous agir, effectivement, pour que la situation s'améliore de manière considérable.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va prendre les réactions des auditeurs avec Kali Kouté. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Claude. Calomé de Goma, au Nord Kivu, pense que tant que nos services de sécurité ne cesseront d'être des services d'oppression utilisés par les politiciens, les droits de l'homme ne seront jamais respectés. Kisbash de Bouna, dans la province orientale, demande si on peut parler de la démocratie alors qu'on continue à enregistrer des cas d'arrestation illégale des défenseurs de droits de l'homme. Jean-Pépé de Kikwit, dans la province du Bandundu, pense que le ministère des droits humains ne fait pas bien son boulot parce que le gouvernement foule au pied chaque jour les droits des Congolais. Il donne l'exemple des arrestations arbitraires, des enlèvements et dispersions des marches pacifiques. Enfin, Camille de Kindo dans le Maniema se demande quel avenir pour la démocratie quand le pouvoir intimide le peuple et cherche à museler l'opinion publique. Ce sont des signes avant-coureurs d'une dérive totalitaire.
Merci beaucoup, Kéline Kouté. On commence par vous, Fernandez Mourola, pour répondre ou réagir à ces messages de nos auditeurs.
Je suis tout à fait d'accord avec les auditeurs, parce que vous savez ce qui se passe dans ce pays. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne les voient pas comme nous, mais c'est qui est vrai que les auditeurs voient de la même manière que les défenseurs des droits de l'homme, donc j'adhère à 100% à ce qu'ils ont dit comme observation.
Oui, mais quand Kaloumé, par exemple, le dossier de Goma dit que nos services de sécurité doivent cesser d'être des services d'oppression utilisés par les politiciens, ce n'est pas fort.
Non, c'est pas fort, c'est vrai. Ce sont des services instrumentalisés. Ce sont des services instrumentalisés, c'est comme de tout le monde. Les trois défenseurs qui ont été arrêtés, les étudiants qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés et amenés dans des services de sécurité. comme si au niveau de la République, il n'y a pas d'instance habilitée et à faire ça.
Christmas Kittinger.
Ce qui ressort clairement, c'est que la situation des droits de l'homme est préoccupante puisqu'elle est caractérisée par des violations de droits de l'homme sur l'ensemble du pays. Et les auteurs de ces violations de droits de l'homme se trouvent être principalement les agents des services de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement. Trois, ils jouissent de l'impunité totale. Quatre, il n'y a pas volonté du gouvernement pour réformer le secteur de la sécurité, pour faire en sorte que les auteurs de ces graves violations de droits de l'homme soient mis à l'écart de ces services, soit traduit en justice et soit sanctionné. De sorte qu'aujourd'hui, le Congo est présenté comme un des pays où règne l'impunité à grande échelle. Et ça, ça montre le manque de volonté. Le ministre a bien relevé le fait qu'il y a beaucoup de législations. Mais il ne faut pas avoir seulement toutes ces législations pour ne pas les appliquer. Aujourd'hui, le Congo a fait des progrès remarquables en matière de législation, mais il faut pouvoir les appliquer. Et nous avons aussi un cas exemplaire d'impunité. C'est le cas de Bosco Ntaganda qui n'est pas transféré par la République démocratique du Congo à la Cour pénale internationale.
Mais c'est
alors
que
celui-ci est sous mandat d'arrêt international.
Mais c'est mandat.
Ça, c'est un exemple d'une politique d'impunité qui trouve son fondement à la République démocratique du Congo. Il y a aussi les cas de liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie. On a toujours dit la démocratie, c'est un des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas de droit de l'homme sans la démocratie. Le droit de l'homme s'exerce dans un contexte démocratique. Alors, il faut consacrer le respect des libertés fondamentales aux citoyens.
Voilà. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez finalement?
Je voudrais inviter tous les défenseurs des droits de l'homme à avoir les pieds sur terre et à continuer à travailler avec le gouvernement pour. Considérer que nous avons un travail commun à faire pour faire en sorte que les choses changent. Et effectivement, je confirme qu'il y a la volonté politique, il y a un programme du gouvernement. Si un ministère des droits humains, c'est parce que justement le gouvernement a la volonté, a la détermination d'aller de l'avant et que pour des situations qui sont identifiées, il y aura des actions pour cela. Donc le droit de l'homme, il n'y a pas que cela. Si nous prenons la totalité du droit de l'homme, dans leur diversité, dans leur indivisibilité, on peut considérer que l'agissance du droit de l'homme dans d'autres secteurs est bien assurée.
Monsieur le ministre, parce qu'il nous reste une minute pour terminer cette émission, est-ce que vous avez les moyens de votre politique à la tête de ce ministère?
Écoutez, le ministère a présenté au gouvernement un budget qui a été voté par rapport à son plan d'action. Et ce budget lui permet de réaliser ce qu'il a convenu comme action. C'est vrai que dans l'ensemble, par rapport à la situation nationale, notre budget ne permet pas, n'est-ce pas, de faire ce que le gouvernement a comme programme. Mais déjà, si nous pouvons faire quelque chose, avec le peu de moyens que nous avons, je crois qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de faire en sorte que la situation s'améliore tant soit peu. Et il faut le faire, il ne faut pas attendre les bons moyens. Avec les peu de moyens que nous avons, nous pouvons déjà agir, rien que, notamment dans le domaine, n'est-ce pas, de la sensibilisation, de l'éducation aux droits de l'homme.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'était le ministre Oupio Kakoura, ministre des droits humains, qui intervenait en ligne depuis Genève, en Suisse. C'est l'occasion pour moi de vous remercier aussi, Fernandèse Mourola, chargée du programme au réseau national des ONG de défense des droits de l'homme de la RDC Renadoc, et Dismas Kissingué, vice-président de la FIDH, basée à Paris, Fédération internationale des droits de l'homme. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Paul Badianyama a tenu la réalisation, mise en onde de Willy Akonda, assisté de Dimaté, Céline Couté, devant le micro, Jean-Claude Toumbakamanga, toute l'équipe. Nous vous disons merci de votre fidélité à Radio Okapi. We'll be right back.